Certains cerveaux s'emballent, certaines émotions débordent et certains corps s'épuisent à tout contenir. Audrey Kalvikovski propose des accompagnements sur mesure pour les hypersensibles, HPI et TDAH, qui veulent s'aligner sans s'abîmer. Sensation, ouverture, intuition, trois étapes clés de sa méthode pour transformer l'intensité émotionnelle et l'ébullition mentale en intuition actionnable. Partage de femmes, c'est une femme et des partages individuels et de groupe, ainsi que des ateliers et des séjours dans les Pyrénées. Parce que nos émotions nous donnent des ailes, retrouvez Audrey sur Instagram, partage de femmes 64.
Envie de doper ton cerveau sans y laisser ta peau?
Regarde-toi dans la glace et dis-moi ce que tu vois!
Ben, je me vois.
Ah, tu te vois!
Envie de booster ton quotidien? Tu es au bon endroit! Bienvenue dans DTC, l'émission qui remue tes méninges et stimule tes cellules.
Tu veux que je te dise ce que je vois à moi? Un type fier! Un type fort! Un type qui peut être très très méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sur les pieds!
Le dimanche à 20h30 sur Pontac Radio, tu dynamises ton passage à l'action.
Tu vois tout ça, toi?
Yeman!
Yeman, bonsoir à tous, Bernet, Bernaise, on est de retour dans DTC, salut Julien.
Salut Audrey, bonsoir à tous.
Il y a deux semaines, on a exploré le syndrome de l'imposteur, on a parlé aussi du perfectionnisme sur ce début de saison, et là on va aller dans la dépendance affective, le besoin d'être aimé ou reconnu. On va voir un petit peu la distinction ce soir, on va parler vraiment d'un truc, je pense que tout le monde vit un jour ou l'autre, mais que certains vivent tout le temps, vraiment. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que je trouve que ça revient énormément. J'ai la sensation que les problématiques dans le couple, les échanges amoureux, c'est un peu générationnel, non? Qu'est-ce que t'en penses, Julien, toi?
C'est vrai que c'est un terme qui revient très régulièrement. Et je suis dépendant affectif, ou mon copain, ma copine est dépendante affectif. Et du coup, ça met une grande pression et sur nous et sur la personne qui partage notre vie.
Effectivement, et ça peut même aller jusqu'à privilégier la fin de la relation ou s'isoler plutôt que d'en apprendre sur les fondements de cette dépendance.
Qui dure longtemps parfois, même pour certains.
Effectivement, plutôt que finalement trouver des solutions adaptées et remédier à cette dépendance affective, on va voir ce soir, on va partager quelques infos sur ce sujet. En tout cas, on va aller voir déjà qu'est-ce que c'est. Hein ? Donc, on va aller dans ton cerveau.
Tout de suite, on se rend DTC dans ton cerveau.
J'aimerais bien nager tranquille. L'océan n'est peut-être pas assez grand pour toi, c'est ça?
On explore ensemble l'océan de tes pensées dans DTC.
Qu'est-ce que t'as?
En exclusivité sur Pontac Radio.
Arrête de me coller aux nageoires!
Alors, il faut commencer par dire que la dépendance affective, oui, c'est un terme utilisé en psychologie, mais il n'y a pas de diagnostic officiel. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est aussi caractéristique que, par exemple, je sais pas, la perversion narcissique. J'en parlerai pas ce soir parce que j'ai un avis très tranché sur le sujet et que je trouve très complexe et que c'est de l'ordre de la psychologie et que non, tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas pervers narcissiques dès qu'il y a conflit. C'est pas un diagnostic à proprement parler. C'est quand le bien-être, l'estime de soi, l'équilibre émotionnel dépendent de manière intensive et nocive des autres. C'est-à-dire que leur attention, leur amour, leur validation devient ton carburant émotionnel. Et quand ça manque, ça va mal, voire très très mal. C'est-à-dire que ce n'est pas ton moteur, c'est ton carburant. Et c'est là où c'est problématique. On va retrouver des notions un petit peu similaires sur les travaux en psychologie sur la dépendance affective. On va trouver la codépendance, c'est-à-dire la relation dysfonctionnelle où on sacrifie ses besoins pour tenir l'autre. Les attachements anxieux par rapport aux théories de l'attachement et les troubles de la personnalité dépendante qui, là, pour le coup, on est sur quelque chose qui relève du diagnostic qui est répertorié dans le DSM-5, donc c'est la bible de la psychologie, qui inclut les peurs de la séparation et la difficulté à prendre des décisions sans l'avis de l'autre. Il y a des différences avec le besoin affectif normal,
a tous d'ailleurs.
Oui, on a tous besoin d'amour, de reconnaissance, de proximité. C'est normal pour des êtres sociaux.
Comme le chantait Laurie, moi j'ai besoin d'amour.
Exactement.
Des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. J'ai honte de sortir ça de tête.
Non, c'est trop bien. La différence, c'est qu'un besoin affectif équilibré peut être nourri et tu restes autonome. La dépendance affective, elle, elle te fait perdre ton centre. Tu te brades pour plaire, tu évites le conflit, tu ne veux pas être seul, tu tentes désespérément de combler un vide. Pour des exemples concrets, par exemple dans la relation de couple, l'autre, lorsque l'autre n'est pas là, vous avez un sentiment de vide sans l'autre, vous avez une peur intense de l'abandon, une suradaptation. Vous avez besoin d'équilibrer. Quand c'est équilibré, pardon, c'est une recherche de proximité, d'affection et de soutien. Et la séparation, elle est sécure. C'est-à-dire que l'autre s'en va, c'est bon, okay. Tout va bien, quoi. Dans la famille, tu te dis oui, tu dis oui à tout pour plaire à tes enfants, à ta famille, parce que ça te permet un climat sans frustration, sans conflit. Donc tu dis toujours oui. Tu sacrifies tes besoins pour plaire et éviter la perte de l'amour hein, de l'autre, du regard de l'autre. Quand c'est équilibré, ben tu respectes les limites des uns, des autres, de toi-même surtout aussi. C'est-à-dire que ben voilà, il y a l'apéro chez tata Ginette, t'as pas envie d'y aller, ben tu dis non. Voilà. En gros, c'est ça et c'est ok et tout le monde t'aime pour ça. Voilà. En gros. Voilà. Un petit peu pour la dépendance affective, c'est ben finalement quand ton bonheur dépend d'une wifi émotionnelle des autres. Et crois-moi, c'est pas la 5G qui va résoudre ça. Hein. Et maintenant, on a compris la tête, on va voir comment on peut aller les risques pour le corps. Parce que ben, dans ton cerveau, ben, ça se fait pas tout seul en fait. D'accord ? Il va falloir y revenir dessus si vraiment tu es concerné par la dépendance affective. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, ça va demander quand même une belle écoute. De suite, on va aller dans ton corps, les risques de la dépendance affective.
Dans DTC, on ouvre aussi la porte à ton physique.
La porte à s'aider, mes filles !
Place à la session dans ton corps sur Pontac Radio. Pontac Radio.
Alors ton corps, lui, il se laisse pas trop berner par ton mental. Et oui, la dépendance affective, elle peut devenir un vrai cocktail explosif. Et crois-moi, quand je te dis que je sais de quoi je parle. Les signaux physiques d'une dépendance affective, vous allez voir, c'est un peu toujours les mêmes signaux. Hein. J'en parle souvent des signaux corporels, mais c'est pour vous dire à quel point un même signal peut être traité de diverses façons. Bah, du stress conscient et constant d'ailleurs, des tensions musculaires, de l'insomnie, des fatigues chroniques, de la nervosité, des crises d'angoisse, des boulimies émotionnelles. Par exemple, tu manges, tu cries, tu pleures pour combler un vide que personne ne peut remplir. T'es au boulot, ton manager ne te dit rien et ton cœur rate un battement, pas parce que t'es malade, mais parce que tu attends l'approbation, comme un shoot de dopamine. Par exemple, t'es avec ton compagnon sur le canapé, il n'a yeux que pour sa tablette, tu interprètes ce silence comme la fin de la relation. Comme s'il manquait un truc pour que ça passe selon tes idéaux. Mais non. Ça se passe pas comme tes idéaux. Bref, tu ressens un manque d'attention et si tu étais capable de te l'avouer, tu pourrais être jalouse de la tablette. Et oui, c'est du vécu, hein, je vous jure. J'en rigole.
Moi, parce que ça me rappelle des situations passées.
Je prends de l'autodérision pour passer le truc, mais je suis concernée aussi. Je pense que vraiment, c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément travaillé, mais pour le coup, voilà, ça revient régulièrement et ça demande une attention d'en sortir. Tu as tous tes diplômes, par exemple, tu es enfin dans un contexte professionnel convenable et malgré ça, le dimanche midi, chez papa et maman, eh ben, c'est toujours le même refrain. Tu te sens mal car ils ne te félicitent jamais de ta réussite. La moindre remarque te fait te sentir en manque d'amour et de reconnaissance de leur fierté. Pour peu qu'il y ait ta sœur, qu'elle ait tout réussi et dont on fait l'éloge.
Tout réussi selon tes parents.
Oui, et qu'en plus elle a la dégosse, toi t'en as pas, tu vois, enfin voilà, elle est mariée, toi t'es célibataire, voilà, elle a un vrai travail, toi t'as pas un vrai travail, tu vois, c'est tout ça, ça peut venir vraiment abîmer. Je suis sûre que vous voyez le tableau, voilà, faites confiance à votre corps, il sait. Et bien on va aller voir un petit peu dans tes croyances, qu'est-ce que le besoin de reconnaissance finalement, parce que moi je pense que ça se joue à ce moment-là, si on est capable de se reconnaître, de reconnaître ses forces, et bien on n'attend plus finalement que l'autre le fasse à notre place.
Ils ne veulent pas qu'on devienne des héroïnes, ils ne veulent pas qu'on devienne quelqu'un.
Dans DTC, nous, oui. Et c'est en faisant le tour de tes croyances limitantes qu'il est possible de faire tomber les chaînes.
Get back on your life, bordel de shit!
J'adore ce bordel de shit, hein, voilà. Alors, nous avons tous besoin d'être reconnus, d'avoir une reconnaissance sociale, parce que c'est une manière d'exister, d'appartenir au monde, à notre environnement social. Mais attention, ce n'est pas forcément mauvais, sauf si tu laisses ce besoin décider pour toi. C'est-à-dire que, ben, forcément, si tu cherches de la reconnaissance, de l'attention, de l'amour dans le regard des autres et que tu ne te l'apportes pas, ben, c'est lui qui ça décide pour toi et tu n'es plus maître de ton âme, finalement. Certains diront, moi je n'ai pas besoin de reconnaissance. Alors à cela, je me permets de vous dire que vous vous mentez à vous-même avec aplomb, je vous dis ça, d'accord ? Parce que la nuance, elle se trouve dans ce besoin de reconnaissance vient nourrir en soi. Soit ça vient nourrir un manque, un vide, une peur irrationnelle, ou alors ça vient structurer votre confiance, votre accomplissement de vous-même, votre épanouissement. Et je vous dis que vous vous mentez parce que pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où j'ai nourri moi ce besoin de reconnaissance, je peux vous dire que la dépendance affective, on la résout en grande partie en tout cas. Le besoin de reconnaissance, du coup, c'est un besoin psychologique classique lié à l'estime de soi et aux croyances sur sa valeur. Et je peux vous dire qu'on a eu des encouragements, bravo, t'as fait caca dans le pot, mais on a cruellement manqué, en tout cas notre génération c'est certain, de valeur, des efforts fournis pour atteindre un résultat. La différence du coup, c'est que la reconnaissance peut te motiver et te permettre la maîtrise de toi-même. La dépendance affective, elle te contrôle et elle peut t'amener à réaliser les rêves des autres. C'est-à-dire que du coup, tu vas faire, moi par exemple, j'ai fait le métier que mon père aurait aimé faire. J'ai aimé le faire, ce métier-là, mais n'empêche que c'était pas mon rêve. Voilà. Chercher la reconnaissance, du coup, c'est OK tant que vous restez capable de jauger à cœur ouvert la situation, c'est-à-dire qu'est-ce que cette expérience me dit de moi, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation et est-ce que ce choix est en adéquation avec mes valeurs. Si vous interprétez tout en termes de bien et de mal, de juste et faux, si vous vous comparez...
Si c'est binaire, quoi.
Ouais, si c'est binaire, exactement. C'est le cerveau limbique, du coup, c'est j'aime ou j'aime pas. Il n'y a pas de vraie reconnaissance de soi. Et du coup, vous bloquez l'expansion et vous transformez chaque expérience en sentence, c'est-à-dire un jugement de soi-même. Pour nourrir ce besoin de manière autonome, il faut s'intéresser aux étiquettes sociales, que j'appelle les étiquettes sociales, que l'on se colle. Un stylo, on a besoin de savoir que c'est un stylo pour savoir de quoi on parle. Donc, c'est important d'étiqueter un objet, un fait, un mouvement, d'accord, quelque chose. Mais l'étiquette sociale n'a pas à être jugeante, c'est-à-dire que le stylo, si je dis c'est un stylo, c'est factuel, c'est un stylo, mais si je dis ce stylo il est moche, de suite j'ai un jugement de valeur sur, voilà, sur les étiquettes sociales. On va avoir je suis courageuse, l'idée c'est de reconnaître les contraires. Je suis courageuse, oui mais je suis aussi trouillarde. je suis nulle, oui mais je suis aussi en train d'apprendre par exemple, ou j'ai appris aussi certaines choses, je suis nulle dans ce domaine mais dans un autre je suis très bonne. Je suis bête et je suis intelligente, oui des fois je suis bête et des fois je suis très intelligente et l'un ne va pas sans l'autre en fait. Donc reconnaître qu'on est tout et son contraire et parfois l'autre projette aussi sur soi, sur nous en fait, ses propres besoins d'attention et c'est là que ça peut commencer à t'apporter finalement ça peut venir compliquer la chose parce que si on est deux dépendants affectifs finalement ben là il faut qu'il y en ait un qui prenne le courage de venir pacifier son monde intérieur pour pouvoir sortir progressivement de cette dépendance.
Une relation où deux dépendants affectifs où les deux sont dépendants affectifs, c'est une relation vouée à l'échec?
Non, pas forcément. C'est une relation où tu vas pas te sentir bien. Mmh. Possiblement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vivront peut-être comme ça toute leur vie.
Ouais.
La question, c'est est-ce que ça vous fait du bien de vous comporter comme ça ? Mmh. La dépendance affective, elle devient problématique et elle peut amener à des difficultés si on estime que c'est ça qui nous amène à nous sentir mal. Mais si vous vous sentez très bien et que vous êtes dépendant, vous pouvez être dépendant affectif ou vous sentir très bien. En général, ça fait souffrir. Hein. Voilà. Bon, allez. Dit comme ça, ça a l'air un peu facile, hein, mais non, ça demande un vrai travail et une vraie prise de recul. Et on va aller un petit peu dans ton cul ce soir. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été dans ton cul. Dépendance versus emprise émotionnelle, puisque voilà, c'est un face-à-face que j'aime bien. Et on va aller voir qui c'est qui tient les rênes de ton système émotionnel.
Tu en as plein le cul ? Besoin d'une pause pour y voir plus clair ? Dans DTC, on pose ensemble nos derrières pour assurer nos arrières. Et c'est OK. DTC, c'est aussi dans ton cul.
Dans ton cul.
Et c'est en exclusivité sur Pontac Radio.
Alors, c'est vrai que souvent, on me dit, on parle des deux, dépendance affective et emprise émotionnelle. Et la dépendance affective, c'est un état interne, c'est une mécanique personnelle. Elle naît des besoins non satisfaits, c'est-à-dire qu'on n'a pas validé amour, sécurité, reconnaissance. On ne vous a pas appris à venir satisfaire ces besoins-là par vous-même. Vous pouvez chercher en l'autre ce que vous ne vous donnez pas à vous-même. Elle peut aussi nous faire qu'on s'auto-sabote pour combler un vide interne. Et ça peut devenir chronique et souvent c'est inconscient. Voilà. Donc, un exemple concret de dépendance affective, c'est tu t'accroches à quelqu'un parce que si cette personne s'éloigne, tu as peur de t'effondrer. Ce n'est pas que l'autre manipule, c'est ton émotion qui te tient prisonnier. D'accord ? C'est ce que tu ressens qui fait que tu ne te sens pas bien. L'emprise émotionnelle, c'est dans la dynamique relationnelle. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est plus externe, en fait. Ici, il y a manipulation et contrôle. On utilise tes émotions à l'avantage de la personne qui va utiliser cette emprise. Mais attention, cette emprise, elle n'est pas toujours conscientisée par la personne. D'accord ? L'emprise, elle peut exister même si tu n'es pas dépendant affectif. Parce que l'autre installe un système où tu te sens petit, coupable, redevable. C'est interactif. Il y a celui qui exerce l'emprise et celui qui la subit, même partiellement. Exemple, tes parents te font culpabiliser pour que tu restes travailler avec eux dans l'entreprise familiale, pour que tu fasses ce qu'ils veulent ou pour que tu abandonnes tes besoins, envies et rêves. Par exemple, ça serait de l'emprise émotionnelle. Tu n'as pas forcément peur de l'abandon en toi-même, mais tu ressens une pression qui te fait perdre ton autonomie émotionnelle. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait la même chose que c'est clair. Julien, je veux bien ton...
C'est clair, et cet exemple est parlant des parents, finalement. Ils ne sont pas dans une dépendance affective, mais ils ont une espèce d'emprise qui n'existerait pas s'il n'y avait pas ce lien émotionnel avec l'enfant.
Exactement.
Pour reprendre cet exemple.
Exactement. On va décortiquer un petit peu cet exemple. Finalement, qui c'est qui crée la tension ?
Les parents.
Les parents. Ah oui. Ils utilisent culpabilisation, pression, chantage émotionnel pour orienter les choix de l'adulte.
Le chantage affectif aussi.
Effectivement. Ouais. Quelle est la source de la souffrance ? Ce n'est pas vraiment, véritablement le vide intérieur de la personne ou la peur de ne pas être aimé, mais c'est le poids du contrôle de cet amour sur l'autre. Mmh. Et dans un état interne, tu peux avoir tes propres envies, rêves et ambitions, mais tu sens que chaque mouvement te coûte, que ton autonomie est amputée. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, la différence, c'est que si tu te sentais perdu sans leur approbation, que tu resterais juste parce que tu ne peux pas supporter l'idée de les décevoir, là, tu es dans la dépendance affective. Mais si tu es conscient que tu pourrais suivre ton chemin, mais qu'ils te manipulent, et je répète, inconsciemment, pour te faire plier à leur volonté, là, on est dans l'emprise émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont tout simplement pas développé leur intelligence émotionnelle, vos parents, à ce moment-là. Autrement dit, dans l'emprise, le problème, ce n'est pas directement toi, il est dans la relation et le comportement de l'autre. La dépendance affective, le problème est en toi et dans ton besoin de l'autre. C'est une dynamique qui est un peu différente. Il peut y avoir dépendance et emprise, d'accord ? Il peut y avoir les deux. C'est souvent très explosif parce que le dépendant se fait piéger et l'autre peut s'installer confortablement dans le contrôle. Attention, je rappelle encore une fois, ce n'est pas toujours conscient, ce n'est pas toujours intentionnel. Je dirais qu'il est surtout, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais qu'il est surtout générationnel pour moi. Peut y avoir la dépendance d'un côté, c'est un combat interne et tu es le gardien de tes chaînes, donc à toi de t'en libérer. Je fais ça très bien en coaching émotionnel d'ailleurs. Seule l'emprise, elle peut être toute seule l'emprise. Et là, c'est une lutte en externe. Tu te bats contre quelqu'un et quelque chose qui t'enferme. Et là, c'est apprendre à reposer ses limites. Petit test rapide pour distinguer. Regarde la source de la souffrance. Si c'est surtout ton manque intérieur, c'est une dépendance. Si c'est surtout l'autre qui te fait te sentir petit, coupable, etc., c'est de l'emprise. Regarde la responsabilité. La dépendance, tu peux évoluer en osant répondre à tes propres besoins grâce à l'écoute de tes besoins, davantage dans l'action intrapersonnelle. L'emprise, tu peux aussi évoluer, mais tu as besoin d'apprendre à poser tes limites claires à l'autre et oser traverser tes peurs de ne pas être aimé si tu le fais. Et là, on est dans une action interpersonnelle. Regarde l'obsession aussi. La dépendance, tu es dirigé par l'idée d'être aimé ou accepté. Et l'emprise, tu es dirigé par les actions ou réactions de l'autre, souvent parce qu'elles te conditionnent et te maintiennent dans le contrôle. Voilà, c'est très pointu. On va de plus en plus, on affine dans des TC. Vous avez
vu ? Chirurgical.
C'est du chirurgical, voilà. On va aller dans ta liberté, comprendre et se libérer de cette emprise émotionnelle parce que ça, c'est possible de le faire seul.
Toi aussi, stimule tes cellules et écris-nous sur les réseaux sociaux. Retrouve DTC sur Facebook et Instagram @pontacradio. DTC en exclusivité sur Pontac Radio avec Audrey Kalbikowski.
Alors, pour se libérer de l'emprise émotionnelle, il est important de développer son intelligence émotionnelle. Moi, j'appelle ça l'écoute émotionnelle. Parce que quand on dit intelligence émotionnelle, il y en a qui se disent « mais moi, je suis intelligent ». C'est pas tout à fait ça. C'est l'écoute émotionnelle. C'est elle qui te permet d'identifier si oui ou non une relation te plonge dans cette emprise. Car ce qui est valable avec les uns ne l'est pas toujours avec les autres. Et oui, les émotions, c'est mouvant. Ça n'est pas vraiment « c'est bon, c'est fait », mais plutôt « un jour, j'y suis et pas l'autre ». D'accord, c'est pas quelque chose sur lequel on peut dire c'est fait, c'est pas fait, c'est faux, c'est juste. D'accord, on n'est pas dans un binaire. C'est vraiment c'est des vagues. Voilà, c'est un océan. Alors, un outil pour pouvoir faire le point sur ton intelligence émotionnelle ce soir, l'outil Impact. On va prendre chaque lettre et on va aller se poser des questions. Et en gros, l'idée, c'est de faire le point sur ton intelligence émotionnelle pour pouvoir ensuite se dire « Ok, bon ben ça, je vais pouvoir mettre un peu mon attention dessus et aller l'explorer et tu peux le faire par toi-même. » Donc, un, l'introspection. Sais-tu ce qui provoque tes émotions? Est-ce que tu sais les nommer? Est-ce que tu sais nommer leurs manifestations physiques? Et utilises-tu l'introspection pour analyser tes réactions? Bien sûr. La maîtrise de soi, ça c'est le I de Impact. M de maîtrise de soi. Arrives-tu à rester concentré malgré tes émotions? Sais-tu utiliser ta respiration pour te calmer ou te recentrer? Peux-tu prendre du recul face à une émotion forte ou une pensée intense? Ça c'était le M de maîtrise de soi. Le P de perception des autres. Es-tu curieux de l'autre et de ce qu'il ressent? Arrives-tu à lire les signes physiques, les expressions et le ton de voix? Peux-tu comprendre le besoin sous-jacent derrière l'émotion exprimée? Et as-tu conscience de la différence entre interprétation et réalité factuelle? Ça, c'est vraiment c'est une dynamique où moi, personnellement, j'ai vraiment travaillé ça. L'affirmation et l'assertivité, le A de affirmation et assertivité, sais-tu montrer à ton interlocuteur que tu as compris ce qu'il ressent? Peux-tu poser des limites tout en restant bienveillant? Le C de communication consciente, questionnes-tu l'autre pour vérifier tes hypothèses sur ses émotions? T'efforces-tu d'adapter ton discours et ton attitude pour créer une connexion réelle? Enfin, le T de travail quotidien, te rappelles-tu que l'intelligence émotionnelle se construit par l'entraînement et te donnes-tu le temps et l'espace pour pratiquer, observer, apprendre et stabiliser ces compétences dans l'écoute émotionnelle? Voilà, comme toutes ces compétences, l'intelligence émotionnelle, ça s'apprend. C'est vraiment un réel exercice à répéter pour stabiliser ce savoir-être. Et je maintiens, c'est pas quelque chose dont on parlait encore dans les années 80. Donc, je pense qu'on aurait tous à s'interroger et à s'intéresser à ça, notamment pour nous, mais aussi pour nos enfants et pour pouvoir peut-être impulser autre chose. Voilà pour l'écoute émotionnelle, en tout cas pour vous permettre de faire le point et ensuite pour la développer, il y a toutes des étapes, avoir conscience de ses émotions, identifier les déclencheurs externes, comprendre les croyances limitantes associées à l'écoute émotionnelle, développer la régulation émotionnelle, donc là on est plus dans notre capacité à accueillir, développer l'assertivité, cultiver l'empathie, pratiquer la réflexion et la rétroaction, développer la résilience émotionnelle, enfin c'est hyper vaste l'intelligence émotionnelle, donc vous entendez bien qu'en une demi-heure, je vais aller dans ton quotidien et on va parler d'indépendance, une libération.
Ils ont reçu un appel. D'après eux, il y a des problèmes chez nous.
Parfois, les autres te feront croire que tes choix ne sont pas les bons.
Tout va bien, ils ont simplement pas l'habitude de voir des gens aussi beaux que nous.
Dans ton quotidien,
tu vas franchir une nouvelle étape. C'est pas seulement toi que tu vas représenter.
Non, c'est tous ceux qui, comme toi, vont
changer le monde. Tu vas leur montrer ce que t'as dans le ventre?
On va leur montrer ce qu'on a dans le ventre. Et quand on parle de dépendance affective, moi, je peux pas ne pas vous parler d'indépendance. Et je vais vous parler d'indépendance émotionnelle. C'est la liberté d'aimer sans se sentir perdu sans l'autre. L'indépendance émotionnelle, ce n'est pas une destination. Ça ne ressemble pas non plus à une ligne d'arrivée ou à une tâche à effectuer. Elle se découvre, parfois doucement, parfois dans la friction. C'est un retour à soi, à ce centre tranquille qu'on oublie souvent sous le bruit des attentes, des liens, des regards. Par moments, l'existence se vit à travers l'autre. On s'ajuste, on s'adapte, on espère être vu, compris, reconnu. Et puis, il y a ce moment où quelque chose en soi murmure que le centre de gravité s'est déplacé trop loin. Ce murmure, c'est souvent le corps qui parle avant les mots. La tension dans la poitrine, le souffle court, le cœur qui cherche un espace pour se redéployer. Parfois, la libération commence là, dans un battement un peu plus fort, dans un silence qui s'impose. De cette étape va naître le besoin d'aller mettre de la conscience. Chaque émotion laisse une empreinte. Certaines se déposent avec une caresse et d'autres traversent comme une lame. Les reconnaître, c'est déjà les accueillir. Les écouter, c'est déjà commencer à respirer autrement. Rien à forcer, rien à contrôler. Simplement observer ce qui monte, ce qui serre, ce qui appelle. L'espace intérieur se crée souvent quand il n'y a plus rien à prouver. De là va naître la responsabilité. Il arrive ce moment où on sent que l'histoire n'est plus à subir, mais à écrire. Non pas en effaçant ce qui a été, mais en choisissant comment la regarder, le regarder. Quand la lucidité s'installe, le blâme s'éloigne et l'énergie revient. Rien ne se décide d'un coup, les choix se dessinent pas à pas, dans la clarté qui revient au rythme du souffle. Chaque geste de présence devient alors un acte de liberté. Va naître alors la souveraineté. Être souverain, c'est revenir à ce point intérieur où tout se réajuste. Là où le regard de l'autre n'a plus à définir la valeur. Là où les émotions cessent d'être des tempêtes et deviennent des messagères. Parfois, il suffit d'un instant de silence. Là, pour retrouver cet endroit. Un souffle, une main sur le cœur, un ancrage dans le corps et la confusion se dissout doucement dans la clarté. Puis, viendra l'étape de entre le feu et la chaleur. L'affection a le goût du calme, une présence douce, une attention simple, la lumière tiède en lien sincère. Elle nourrit, elle répare, elle offre un espace pour se déposer. L'amour, lui, il déplace des montagnes. Il traverse, secoue, transforme. Il met le feu à ce qui stagnait, éclaire ce qui dormait. Dans sa lumière, tout devient plus vivant, plus vrai. Alors peut-être que la question n'est pas de choisir, mais d'écouter ce qui, aujourd'hui, appelle le plus fort. Un besoin de chaleur, sécurité, douceur, lenteur, ou un besoin de feu, intensité, mouvement, expansion. Et si la liberté consistait à honorer les deux, à se reposer quand la tendresse le demande et à se laisser traverser quand la vie invite à grandir. Puis vient la liberté vivante. Il existe un état où l'amour ne prend plus, il circule. On le ressent en fait. Où le lien ne retient pas, il relie. Où donner ne vide pas, mais nourrit. Cet espace ne se décrète pas, il s'expérimente. Parfois dans le silence, parfois dans la rencontre, parfois dans la chute. L'indépendance émotionnelle, ce n'est pas un détachement, mais un enracinement. Une façon d'être entier, même en lien. Un art de respirer dans la complexité sans chercher à la simplifier. Il y a quelque part en chacun un espace qui sait aimer sans se perdre. Un espace qui accueille la chaleur et le feu, la douceur et la force. Cet espace-là, quand on le retrouve, on devient le cœur de la liberté. Ça, c'est toutes les étapes par lesquelles je suis intimement passée pour en tout cas m'enrichir de cette dépendance affective pour pouvoir véritablement me sentir affectivement sécure, de revenir dans un attachement plus agréable à vivre au quotidien, même si ça n'enlève pas les tempêtes émotionnelles. Il y a des moments où ça reviendra un petit peu comme un relent après une bonne garbure, puisqu'on entre dans l'hiver et qu'il commence à faire sacrément pas très chaud. Et bien, du coup, c'est des petits relents de temps en temps. On ne vous effacerait pas les... Enfin, je veux dire, par exemple, si vous avez une dépendance affective aujourd'hui, que vous avez, 40 ans, si vous voulez vous en défaire, vous imaginez bien que pendant 40 ans, vous n'êtes pas validé par vous-même, vous n'êtes pas conscient de vous. Et finalement, vous commencez ce travail-là, il faut un peu aussi d'indulgence. Moi, quand j'ai découvert que j'étais dépendante affective, je me suis dit, bon, ben voilà, 30 ans, je vais mettre au maximum 30 ans de plus à être bien, tu vois l'idée, le 50-50. Maintenant, ça peut aller plus vite quand on se fait aider. Si vous avez, après l'écoute de cette émission, ressenti que vous êtes possiblement concerné par soit l'emprise émotionnelle, soit la dépendance affective, soit les deux, je vous invite vivement à gagner du temps et à vous faire accompagner par des professionnels qui sauront vous aider à vous aimer. Vraiment. Et s'aimer, c'est pas si simple. C'est pas un truc. Enfin, ça fait un peu cucu comme ça, dit comme ça, mais aimez-vous vous-même. Et c'est tellement profond. Et je pense que, ouais, c'est. c'est revenir à cet état presque enfantin, enfin voire de bébé logis. Je sais pas comment on pourrait l'appeler comme ça.
La oui, bébé logis. Oui, oui, d'enfant en fait.
Petites, oui, c'est ça. Un bébé, il se demande pas s'il s'aime ou s'il s'aime pas. Il est et c'est tout. Il est amour. Point. Et revenir à cet état de je suis amour. C'est vrai, dit comme ça, franchement, je suis pas trop bisounours à la base, mais voilà. Le message de ce soir, bah, finalement, c'est que la dépendance affective, ce n'est pas une fatalité. Et peut-être que tu n'es pas concerné, mais que ta femme, ton amie, ta mère en est et n'en a même, peut-être même pas conscience. Alors, si chacun ose l'indépendance émotionnelle avec conscience, bah, il permet aux autres de grandir aussi. Dans 2 semaines, on parlera du leadership et de l'hypersensibilité, comment faire un super pouvoir professionnel, comment en faire un super pouvoir professionnel. Et ma petite phrase pour conclure cette émission, l'affection, c'est ce qui reste quand les grands mots se taisent. Un regard, une main, un souffle.
Prêt à attaquer la semaine du bon pied ?
Ce qui compte, c'est pas ce que je vois. L'important, c'est ce que tu vois toi. Alors regarde dans ce miroir et dis-moi encore ce que toi, tu vois.
Tu en veux encore ? DTC sera bientôt de retour pour booster ton énergie et continuer d'avancer.
Je vois un type
fort, 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 qui peut être très méchant quand il a la haine et qui accepte pas
qu'on lui marche sous les pieds.
En attendant, pour réécouter l'émission, direction le podcast sur pontacradio.fr.